We have America.
You talking to me? You talking to me?
That time's over, kid.
Are you ready?
I never play.
Si l'Amérique m'était comptée.
Le 10 mai 1945, le 10 mai 1945, Bravik Imms, aka Monsieur Bobby, nous présentait le crooner américain le plus populaire du moment.
Je vais vous faire entendre un de nos jeunes chanteurs les plus célèbres, Frank Sinatra. C'est ce que vous appelez un chanteur de charme. Il a une popularité monstre parmi les Américaines, surtout auprès des très jeunes. Dernièrement, Frank Sinatra chantait dans un grand théâtre en Amérique. Et pour être certain d'avoir des places, une foule de ses très jeunes admiratrices avait commencé à faire la queue dès 4 heures du matin.
Eh ouais, c'était ça, The Voice ou All Blue Eyes. Un gamin de prolo immigré du New Jersey, devenu une star. Frank Sinatra a vendu plus de 150 millions de disques dans le monde. Mais il a aussi reçu l'Oscar du meilleur second rôle pour Tant qu'il y aura des hommes, en 1953. Frank Sinatra était l'ami des présidents, mais aussi des mafieux. Et Frank Sinatra était l'amant des plus belles femmes. Pas étonnant qu'il soit devenu le symbole même de l'American Dream. Si l'Amérique m'était compté, Frank Sinatra, comment est-il devenu la voix de l'Amérique ?
Hi guys.
Et pour commencer cette émission, voici The Chairman of the Board, voici Come Fly With Me, Frank Sinatra.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide. Starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, 'cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly away. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, 'cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. You just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly, let's fly. Pack up, let's fly away.
Thank you.
À New York, en 1934, la radio NBC accueillait la plus belle voix du monde, Carlos Gardel.
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno.
Un môme de 18 ans quitte alors Hoboken, dans le New Jersey, pour venir écouter la star du tango.
À la fin du spectacle, le gamin s'approche de Carlos Gardel et bafouille quelques félicitations.
Gardel lui demande alors ce qu'il veut faire de sa vie.
Le gamin sait pas trop quoi répondre. Il est plutôt bagarreur, mais il a une belle voix, dit-on.
Puisqu'il chante bien, Gardel lui conseille de jouer de sa voix plutôt que de ses poings.
Un radio-crochet est organisé par la NBC. Qu'il y participe.
Effectivement, il y participe et ce gamin, c'est Frank Sinatra.
Bien plus tard, devenu une immense star, Sinatra déclare en 1981, pendant une tournée en Argentine, « Merci de m'avoir aidé à vivre, Señor Gardel. »
Oui, merci, Carlos Gardel. Grâce à vous, si l'Amérique m'était comptée, on traverserait aujourd'hui les États-Unis en compagnie d'une voix, The Voice, Frank Sinatra.
Et la voix, la couleur, le timbre, les inflexions de Sinatra, ça parle à Eric Neuhoff. Le journaliste et écrivain a publié plusieurs livres sur Sinatra, dont Histoire de Frank. Neuhoff nous raconte comment Sinatra est devenu le mythe personnifié de l'Amérique.
When the band begins to leave the stand and folks start to roam, as we waltz home cheek to cheek we'll be. Come on, come on, come on, come on and dance with me.
Eric Neuhoff, bonjour.
Bonjour.
Vous avez écrit un essai, un hommage, j'ai envie de dire, dédié à Sinatra. Cet essai s'intitule « Histoire de Frank ». Histoire au singulier. Alors, on aurait pu mettre « Une histoire de Frank » ou
oui,
encore
« avec un H majuscule ».
Avec un H majuscule. Ou « Histoire au pluriel » aussi, ça aurait pu se faire, avec plein d'anecdotes. Non, vous, c'est « Histoire de Frank ». Pourquoi ce mot « histoire » En gros, Frank, Sinatra, c'est une œuvre.
Oui, c'est une œuvre, c'est une époque et c'est un monde. C'est avec le recul, on s'aperçoit qu'il a toujours été là et qu'il incarnait à lui tout seul une grande partie du XXe siècle occidental, en tout cas.
Oui, il est né en 1915,
ouais.
Dans le New Jersey. C'est quoi l'enfance de Sinatra? C'est pas une enfance aussi misérable qu'on aimerait la présenter pour faire une vraie success story. Non, c'est...
Non, c'est une enfance banlieusarde en face de New York, à Hoboken, avec une mère qui était, mettons, sage-femme et, disons, faiseuse d'ange, et la fameuse Dolly, qui était la maîtresse-femme qui portait la culotte dans le ménage et qui avait ce fils unique, Frank, qu'elle adorait, et qui est peut-être la seule femme qu'il voulait vraiment éblouir avec Ava Gardner plus tard.
Eric Neuhoff, d'ailleurs, il s'en est fallu de peu pour que Sinatra ne puisse pas faire sa carrière, parce qu'il y a un problème au moment de l'accouchement, il y a une histoire de forceps compliquée.
Oui, le forceps lui a esquinté le tympan, ce qui fait qu'il avait des problèmes d'audition, qu'il ne connaissait absolument pas la musique, et apparemment, même s'il avait voulu, il n'aurait pas pu être musicien, mais ça a eu un avantage pour lui, c'est que ça lui a évité de partir pour l'armée. Ce qui lui a créé des problèmes, parce que lui qui passait pour un grand patriote, un va-t-en-guerre, les gens trouvaient que c'était un peu facile de sa part, alors qu'il avait fait des pieds et des mains pour être exempté à cause de cette histoire de tympan.
Night and day, you are the one. Only you beneath the moon.
Sinatra, très jeune déjà, veut devenir chanteur. Alors ça m'a étonné. Dès 11 ans, il dit « je serai chanteur ».
Ouais, à 11 ans, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Il a dû écouter les big bands et voir que les chanteurs étaient des vedettes incontestables, que ça permettait de tomber toutes les filles. Parce que dès cet âge-là, il était très porté sur le sexe féminin. Et ça a continué toute sa vie. Et il a décidé qu'il serait le plus grand chanteur du monde, le meilleur chanteur, la plus belle voix. Et il avait aussi une volonté de faire et une absence de scrupules qui permettait d'avancer dans ce chemin-là.
Et il commence comment sa carrière? Parce que bon, c'est beau de vouloir faire...
Bah, ils avaient formé un petit groupe avec des copains qui s'appelait The Hoboken Four. Et ensuite, il est entré dans l'orchestre de Tommy Dorsey.
Avec Tommy Dorsey, il y a une relation particulière. Parce qu'on peut dire que ce chef d'orchestre a repéré qui détenait là quelqu'un qui avait du talent. Sinatra, il va en faire quelque chose. Mais enfin, il repère aussi qu'il peut aussi se faire beaucoup d'argent.
Sinatra a découvert, grâce à lui, qu'on pouvait se servir de sa voix comme d'un instrument de musique. Il a observé Tommy Dorsey qui ne reprenait jamais son souffle pendant les morceaux. Et Sinatra s'est dit, je vais faire pareil avec ma voix. Et pour ça, il s'est entraîné à faire des longueurs de piscine, à nager sous l'eau et à avoir des poumons hors du commun pour faire ces choses-là. Mais ça ne l'a pas empêché non plus de trahir Tommy Dorsey. Il faut dire qu'il avait signé avec lui un contrat absolument ahurissant qui octroyait à Tommy Dorsey 42 ou 43% de tout ce que gagnerait Sinatra jusqu'à la fin de ses jours. Alors, la petite histoire veut que, à l'époque, Sinatra déjà avait employé des moyens pas vraiment légaux et qu'il avait fait à Tommy Dorsey, comme on dit, une offre qu'il ne pouvait pas refuser.
Parce que Sinatra, on l'a pas évoqué, mais a été élevé dans cette petite communauté italienne du New Jersey où la mafia est présente. Enfin, la famille Sinatra est liée, mais par des alliances, à des gens de la mafia.
Un petit peu, mais c'est surtout quand il est devenu un chanteur un peu connu, parce que tous les clubs où se produisaient les crooners appartenaient à des mafieux. Donc, pour chanter, on était obligé de rencontrer ces gens-là, qui estimait qu'il vous avait lancé, et ensuite, quand le succès était là, vous demandait de renvoyer l'ascenseur. Et puis, en plus, Sinatra, on voit bien que ça ne lui déplaisait pas d'être associé à des gros bras, pris en photo avec des parrains, et que son côté petit mec maigrichon était flatté d'être associé à tous ces gens-là, qui étaient des caïds, des durs, alors que lui déclenchait souvent des bagarres, mais se débrouillait pour que ce soit les autres qui règlent les histoires à sa place, ses gardes du corps et compagnie.
Nous sommes dans les années 1940, on va dire. Sinatra est un crooner. Il commence sa carrière de crooner, mais il n'est pas le seul. Il y a de la concurrence. La concurrence est rude. En quoi il se distingue des autres?
Ah ben, il a une plus belle voix. Il y a Bing Crosby, mais qui est un petit peu plus âgé. D'ailleurs, Bing Crosby disait de Sinatra, une voix comme la sienne, on n'en rencontre qu'une fois dans une vie. Pourquoi a-t-il fallu que ça tombe sur la mienne? Mais ça n'empêchera pas Sinatra d'admirer beaucoup Crosby, de l'imiter et de jouer avec lui au cinéma. Et il est devenu très très vite, mais une vedette énorme. Et il avait une présence fabuleuse. Et sa voix, il y avait quelque chose quand on écoute ses chansons, tout le monde devait avoir l'impression qu'il s'adressait à vous en particulier. C'était une gageure parce que les femmes pensaient qu'il était en train de les séduire et les hommes ne lui en voulaient pas parce qu'ils avaient envie de lui ressembler. Donc il avait le public entier à ses pieds.
She gets too hungry for dinner at 8. She likes the theater and never comes late. She never bothers with people she'd hate. That's why the lady is a tramp.
Et une carrière qui se construit très bien. Il y a la chanson, bien sûr, donc le cinéma, mais il fait un peu de tout. Il y a de la radio, il touche à tous les médias.
Oui, oui. Et bien, ça ne l'a pas empêché d'avoir une période de creux. Il a eu des problèmes aux cordes vocales, où les gens se sont lassés, ses films marchaient moins bien. Et c'est au moment où il a rencontré Ava Gardner. Elle l'a sorti du trou et a relancé sa carrière.
Même le mafieux Frank Costello blâme Sinatra de parader avec Ava en public. C'est un manque de respect envers l'institution du mariage, lui dira-t-il. Le 7 novembre 1951, Frank Sinatra épouse Ava Gardner, défiant tous les codes italo-américains, ce qui n'arrange pas sa cote de popularité, même auprès de la mafia.
Et c'est peut-être la seule femme qui l'a menée par le bout du nez, et peut-être même par le reste, parce qu'il ne s'en est jamais remis, elle le faisait tourner en bourrique, il était jaloux d'elle, il a fait des tentatives de suicide, mais elle était une grande gueule inouïe, elle parlait comme un charretier, elle était aussi grossière que lui, et c'était une star incontestée. Et il y a la fameuse histoire qui a relancé Sinatra au cinéma, elle lui a obtenu le rôle de Maggio dans Tant qu'il y aura des hommes, alors que le personnage était prévu pour Eli Wallach, et Sinatra a obtenu l'Oscar pour ça.
C'était en 1953, ouais. Avec je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, l'évocation de cette scène-là dans un film un peu plus tardif qui est Le Parrain.
Ouais, bah dans Le Parrain, c'est la fameuse scène où le producteur de cinéma se réveille un matin dans son lit et trouve une tête de cheval décapitée dans les draps sanglants. Mais l'anecdote est marrante, mais hélas, elle est fausse.
Oh, c'est décevant.
Ouais, c'est décevant. Oui, mais c'est bien, c'est pas un hasard si on l'a inventé pour quelqu'un comme Sinatra.
Le 18 mars 1955, Hoover lance une opération nationale de surveillance sur Frank Sinatra. Dans un rapport confidentiel, il est noté que Sinatra détient 2% du casino Le Sands à Las Vegas, dont certains actionnaires sont des membres du crime organisé. Il y a été vu avec Joe Fischetti, l'un des mafieux qui l'avait accompagné à La Havane, également très lié à Sam Giancana, chef de la mafia de Chicago et propriétaire de clubs où Sinatra se produit.
Oui, parce que Sinatra se relance après une petite période de creux dans la chanson, dans le cinéma, mais pas que. Il touche au casino, à l'immobilier.
À l'immobilier, il a une compagnie de disques, il crée sa propre marque de disques, reprises. Et les années 60 est vraiment une période bénie pour lui. Sa voix est au sommet de sa forme, il a les arrangeurs les meilleurs du monde. Il peut toucher à la musique brésilienne. Et puis c'est un type qui voulait toujours être le numéro un quand les Beatles ont démarré. Et il a dit, mais non, mais les petits gars, vous allez voir. Il a sorti Strangers in the Night, qui est devenu numéro un au hit parade. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Et c'est aussi quelqu'un qui a inventé les albums concept. Ces 45 tours ne se vendaient pas si bien que ça, mais tous ces albums, qui étaient comme un recueil de nouvelles faites par le même auteur, se retrouvaient numéro un dans les hit-parades.
Ouais, donc il avait bien compris comment fonctionnait le marché du disque à ce moment-là. Les années 60, vous, Eric Neuf, vous considérez que c'est un peu son apogée?
Ah oui, oui, oui. Là, avec Nelson Riddle comme arrangeur, toutes les chansons qu'on retrouve, là, The Girl from Ipanema, les saloon songs, comme il disait, Empty Tables, One for the Road, One for My Baby, c'est vraiment magnifique. Et il joue de sa voix comme un musicien d'un violon. C'est quelque chose de miraculeux, alors que ce type ne savait pas lire une note de musique. Et il n'a jamais écrit une partition ni une parole de chanson. Et pourtant, c'est lui qui a servi de bande originale à tout le XXe siècle.
C'est intéressant ça, parce qu'on se dit que c'est un artiste majeur, ça c'est la face visible de Sinatra, et puis il y a le côté sombre, on évoque la mafia, mais si on parle des années 60, il y a même du sordide, je pense à un week-end dans une de ses résidences, hein, près du lac Tahoe, pas loin de Las Vegas, avec Marilyn Monroe.
Oui, dans le Calneva Lodge, là, l'hôtel qui était un hôtel assez particulier, qui était traversé par la frontière du Nevada, au milieu de l'hôtel. Le week-end avant la mort de Marilyn, ils ont fait venir Marilyn là-bas avec Sam Giancana. Et on ne sait pas ce qui s'est passé au juste, mais ça a dû être vraiment sordide, comme vous le dites, parce que Marilyn a été rapatriée inconsciente à l'hôpital à Los Angeles. Et DiMaggio n'a jamais pardonné à Sinatra. Il a interdit à Sinatra de venir à l'enterrement de Marilyn. Mais on voit que Sinatra était quand même un type prêt à tout. Hein. Les partouzes, les prostituées. Il n'y a que la drogue qui ne l'intéressait pas. Ça, il ne supportait pas les gens qui se droguaient. Il s'était presque fâché avec Sammy Davis quand Davis avait plongé dans la cocaïne. Mais en revanche, pour le bourbon, les cocktails, etc., ça y allait. Cette partie cachée de l'iceberg était... Mais en même temps, rajoute à la fascination qu'on éprouve pour lui. Hein, c'est ce côté viriloïde et un peu truand, surtout à grande échelle. C'est un mafieux, entre guillemets, qui était copain avec un président des États-Unis. Toutes ces choses-là, c'est plus grand que nature. Hein. Et en plus, il y a tout ce côté macho, glamour, à la Mad Men, hein, chez lui. Toujours impeccablement vêtu, une élégance unique. Et ça compte beaucoup dans l'admiration que les gens ont pour lui.
J'ai réussi à faire une photo de Sinatra, une photo assez curieuse. Ça se passait à l'hôtel Soleil à Palerme, enfin quel hôtel où de tradition les chefs de mafia louent un appartement à l'année. À l'époque, c'était Gianco Russo, cette espèce de paysan pratiquement analphabète d'Agrigente avec sa casquette d'un peu de travers, avec ses grosses moustaches et son éternelle moitié de cigare toscan à moitié éteint, qu'il trimballe à la commission des lèvres. Il avait sa veste rejetée sur les épaules, il était en bretelles, il rentre dans cet hôtel qu'est le palace tout de même de Palerme, et Sinatra attendait. Sinatra, dans le fond, c'était pas un rifardou, c'est-à-dire ce n'est pas un étranger, mais c'est un monsieur qui est parti tout de même aux États-Unis. C'est un peu l'enfant prodigue. Et quand l'enfant prodigue arrive en Sicile, eh bien, on ne tue pas le veau gras. On se méfie, on attend qu'il donne ses preuves. Et Sinatra s'est agenouillé devant le paysan analphabète. Il avait derrière lui ses gardes du corps, il lui a pris le poignet, il lui a dit « Je vous baise les mains ».
La véritable histoire de la mafia, l'Onorata Societa de Jacques Kermoal aux éditions de la Table Ronde.
Oui, ce qui fait que Sinatra pouvait être ami avec des mafieux, mais avec le président des États-Unis. Ouais. Ses relations avec les Kennedy sont compliquées quand même.
Bah oui, parce que, bon, il partageait des petites amies, enfin des amours tarifés avec Kennedy avant que celui-ci soit président. Mais ensuite, ça s'est compliqué parce qu'un président de la République qui fricote avec un type impliqué dans des affaires mafieuses, ça l'affiche mal. Et en plus, Bob Kennedy, qui était ministre de la Justice, enfin l'équivalent aux États-Unis, l'avait dans le collimateur et était prêt à tout pour le déboulonner. Donc Sinatra, qui s'était imaginé après l'élection devenir ambassadeur en Italie ou je ne sais où, s'est vu interdit de séjour à la Maison-Blanche, était obligé quand il y allait de passer par l'entrée de service. Et humiliation des humiliations, quand Kennedy devait venir en Californie, c'était chez Sinatra que le séjour était prévu. Sinatra avait entièrement rénové sa maison de Palm Springs, fait construire une piste d'atterrissage pour hélicoptère, et au dernier moment, Peter Lawford, le beau-frère, a été chargé d'annoncer à Sinatra que JFK ne viendrait pas. Et pire humiliation, c'est qu'il descendrait chez Bing Crosby, en plus qui était républicain.
Aïe.
Et Sinatra, paraît-il, mais ça je crois que c'est vrai, a démoli à coups de masse la piste d'atterrissage qu'il avait fait construire pour Kennedy.
Une déception de Sinatra. Sinatra qui d'ailleurs était plutôt démocrate, c'est un homme qui a porté les droits civiques, qui a fait
au début, bien sûr.
Et qui a évolué.
Ouais, qui a évolué et puis qui était... C'est grâce à lui que les artistes noirs à Las Vegas étaient payés au même tarif que les blancs. Hein. Faut pas oublier que c'était une époque un peu spéciale où dans un hôtel, quand Harry Belafonte s'était baigné dans la piscine, les clients avaient demandé au directeur de l'endroit de vider l'eau après. Et quand on accusait Sinatra de racisme, il avait quand même ça de son côté.
Sinatra retrouve la Maison Blanche en avril 73, quand le président Nixon lui demande de venir chanter au dîner donné en l'honneur du président italien Andreotti. Sinatra choisit de chanter la chanson du film The House I Live In, écrite par Abel Miropol et Albert Maltz, tous deux communistes. C'est cette chanson antiraciste, prônant la démocratie, qui valut à Sinatra, près de 30 ans plus tôt, de déchaîner la traque de Hoover et du FBI, persuadé qu'il était communiste. La boucle est bouclée.
What is America to me? A name, a map, or a flag I see. A certain word, democracy. What is America to me?
Puis il a évolué, il est devenu très patriote à l'américaine. Il a voté Nixon, il a organisé sa cérémonie d'investiture, il a été très très reaganien et surtout très Nancy Reaganien d'après ce qu'on sait. Et il a fini, oui, comme un Américain bon teint, un peu caricatural, avec son embonpoint, sa coupe rose et sa moumoute.
Oui, il y a un côté un peu ridicule de Sinatra dans les années 80-90,
ouais.
Parce que, bon, il est très vieux, Sinatra. Ouais. Il y a un côté un peu désuet, quand même.
Mais il y a un côté désuet, puis il y a un côté presque tragique, une sorte de roi lyre en train de tituber sur scène, d'oublier les paroles... Et ça rajoute aussi au côté shakespearien de Sinatra. Là, c'est, tout ce siècle se termine dans un Las Vegas un peu crapoteux, qui n'est plus le Las Vegas sulfureux, mais qui est un endroit, un sous Disneyland pour machine à sous. Et ça, c'est un petit peu pathétique, mais on lui pardonnait ça. Le type qui va jusqu'au bout et qui a vu tous ses amis mourir, qui se retrouve seul... marié pour la quatrième fois avec une ex-femme d'un des Marx Brothers et qui faisait sécher ses moumoutes sur la barre de la douche dans sa salle de bain et qui avait un verre de bourbon avec des glaçons en train de fondre et qui regardait dans le vide en pensant à on ne sait quoi.
Sinatra a construit son image, on le sent bien, hein, par sa posture, toutes ses fréquentations. Malgré tout, il a une relation extrêmement complexe avec les médias. On sent que les journalistes et Sinatra, c'est pas l'amour fou.
Ah oui, il déteste la presse. Ouais, là, le nombre de fois où il a eu des altercations avec des journalistes, surtout des journalistes femmes, qu'il agressait avec une vulgarité sans nom. Et il a essayé d'interdire la biographie qu'écrivait Kitty Kelley sur lui. Il a réclamé 2 millions de dollars. Il a été débouté. Mais pourtant, son ami, l'arrangeur Jimmy Van Heusen, avait dit « Si j'écrivais un livre sur lui, il irait en prison pour 1000 ans. » Alors, ça veut bien dire qu'on comprend pourquoi il ne voulait pas qu'on parle trop de lui.
Ouais. Eric Noah, vous pensez que Sinatra était quelqu'un de sympathique ?
Non. Non, il devait être odieux. Il y avait trop de revanche et puis trop de contrôle. Hein. Malgré les litres de bourbon, on sent que c'était quelqu'un qui ne supportait pas la moindre contradiction et qu'il détestait être seul. Il fallait toujours qu'il y ait des amis, qu'on l'accompagne. Et c'est quelqu'un qui a tout fait pour ne jamais être seul et qui a terminé seul, mais au sommet.
Seul, mais au sommet, en ayant traversé le siècle, parce qu'il est né en 1915.
Complètement, ouais, ça,
il est mort en 98.
Ouais.
Il a traversé ce 20e siècle. Ouais. C'est une figure, hein, une figure tutélaire des États-Unis. Sinatra, c'est l'Amérique ou c'est une Amérique idéalisée ?
C'est l'Amérique rêvée, c'est l'Amérique des films, c'est l'Amérique de petit déjeuner chez Tiffany, c'est l'Amérique d'un été 42. C'est celle qu'on aurait voulu connaître et qui n'a sans doute jamais existé, mais c'est grâce à lui que sans doute un tas de gens se sont levés en écoutant une de ses chansons et ont cru au rêve américain. Et ça n'a pas de prix.
Et dans le rêve américain, il y a tout le côté sombre. Et Sinatra, il a ça aussi.
Évidemment, parce que quand on rêve, c'est qu'il fait nuit tout autour. Et la nuit, il se passe un tas de choses.
Sinatra, on peut dire qu'il y a un petit, pour prendre un mot anglais, revival.
Ah, moi, je crois qu'il n'y a jamais eu de revival. Hein. Surtout depuis sa mort, un tas de générations le découvrent pour la première fois et s'aperçoivent que le bonhomme était quand même une pointure insensée. Il y a beaucoup de chansons formidables, très très peu de déchets, et même certains films sont pas mal du tout. Les films où il joue un détective, l'homme au bras d'or, même tant qu'il y aura des hommes, il est pas mal du tout. Et Sinatra, oui, c'est indémodable, c'est inoxydable maintenant, et ça tout le monde s'en aperçoit. Et puis Sinatra, ce qui compte aussi dans son curriculum, c'est le nombre de femmes qu'il a eues, et ça n'est pas rien.
Oui, très très belle réputation, Sinatra, anatomique, mais ça...
Oui, parce qu'on l'appelait pas seulement The Voice à Hollywood, il y avait un autre surnom.
Bah, lequel ?
The Dick.
Voilà, et ça voulait pas dire l'inspecteur.
Non.
Voilà, Eric Neuf, vous m'avez glissé juste avant qu'on commence de parler, en entrant dans le studio, cette interrogation qui me laisse perplexe, mais que j'aime beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui, Sinatra aurait pu gagner The Voice ? Bah oui.
Il aurait tout fait pour, d'ailleurs.
Voilà.
Il aurait cassé les tibias des jurés. Il n'y aurait pas eu 36 compétitions. Il aurait gagné tout de suite. Et puis, je pense que même sur le papier, son talent était évident, même pour les gens d'aujourd'hui.
Merci beaucoup, Eric.
Merci.
Love.
Qui a dit qu'on le referait une autre fois ? Bien sûr qu'on a des skills, bien sûr qu'on s'amuse bien, mais pas besoin de le dire à haute voix. Profite de maintenant, c'est simple comme au revoir. Je connais mes talents, ton corps, mes lèvres, un matelas. Bientôt, je sens plus ma langue, mord le coussin, crie à toi de voir. Oublions les langages communs, me dis pas à quoi tu penses. En nous j'ai tellement confiance, regarde-moi jusqu'à demain. Bruyant quand nos montées s'accordent, comme deux avions qui décollent. Oh non, regarde-moi jusqu'à demain. Le désir passe, Je suis pas sûr qu'il ait bien fait s'avancer d'un pas. Elle refuse puis elle cède un peu. Ça va les rendre fous comme la bougie d'anniversaire qui s'éteint pas. Bien sûr il s'agit pas de nous, ces histoires l'amour hippie. Baisse-moi avec de l'amour hippie. T'es pas très belle mais t'as beaucoup de charme. J'ai encore du miel sur les lèvres, je suis un goujat. Qui peut se moquer durant toute la prémongaine? Ce monde est froid comme ok. Glisse-toi entre mon corps et la moquette. Oublions les langages communs. Me dis pas à quoi tu penses. En nous j'ai tellement confiance. Regarde-moi jusqu'à demain. Bruyant quand nos montées s'accordent, comme deux avions qui décollent. Oh non, regarde-moi jusqu'à demain.
Sinatra en a fait des dizaines. Il a chanté avec Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, Barbara Streisand, Liza Minnelli, Julio Iglesias, Charles Aznavour. Et surtout, Sinatra avait son club de rats. Son Rat Pack. Joey Bishop, Peter Lawford, Sammy Davis Jr. et Dean Martin, évidemment. Avec eux, pendant une dizaine d'années, Frank Sinatra a écumé les salles de Las Vegas et il s'est battu contre la ségrégation ambiante de l'époque. Et oui, le Sinatra du Rat Pack, humaniste et démocrate, on aurait tendance à l'oublier un peu.
Michel Legrand, bonjour. Alors, Sammy Davis avait tous les talents. Il faisait partie de ce groupe d'une grande drôlerie avec Sinatra.
Oui, oui. Alors, à ce propos, dans l'année 1962, j'étais à Las Vegas où je travaillais. Et il y avait, au Sands, à l'hôtel d'à côté, The Rat Pack, c'est-à-dire le Sinatra, Sammy Davis Jr.,
Dean Martin
et Peter Lawford et tout ça. Et souvent, moi, je travaillais beaucoup là-bas, mais le soir, j'allais les voir parce que ils étaient là tout le temps où ils s'amusaient vraiment formidable. Et j'ai assisté à beaucoup de leurs représentations. Ça, je me mettais au premier rang et je marrais avec eux parce que c'était un spectacle pour eux qu'ils faisaient. Je veux dire, l'humour, la drôlerie, le talent, les chansons, l'improvisation, l'invention étaient constante et c'était vraiment des grands moments de musical et grâce en grande partie à Sammy Davis.
Georges Ayache, bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, on associe souvent le nom de Frank Sinatra au Rat Pack, mais il est important de dire tout de suite qu'il existait un Rat Pack première génération,
oui,
dans les années 50, un groupe réuni autour d'Humphrey Bogart. C'était quoi exactement ce Rat Pack des origines, j'ai envie de dire?
Effectivement, le premier Rat Pack était dans les années 50, au moment où l'Amérique commençait sa chasse aux sorcières. C'était un peu avant McCarthy d'ailleurs, mais déjà on pourchassait les gens à Hollywood, on les soupçonnait des pires vilainies, etc. Et naturellement, il y a eu une réaction d'artistes qui trouvaient ça quand même assez dur, assez injuste et ne correspondant pas aux valeurs américaines traditionnelles. Et donc il y a tout un groupe d'artistes qui s'est réuni de manière très informelle et sur le ton de la plaisanterie, de la beuverie, etc., autour d'Humphrey Bogart, et qui comportait des gens très 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 divers, hein. Tony Curtis, sa femme, il y avait même Leonard Bernstein qui faisait des petites apparitions, etc. Les gens ne se prenaient pas au sérieux, et Bogart le disait lui-même aux journalistes, on est là pour déconner tout simplement, hein. Mais en réalité, il y avait aussi un fond politique qui était très consistant, parce qu'ils se sont impliqués à un moment donné, ça a failli leur coûter même très cher, hein, et Sinatra le premier, qui lui n'avait jamais froid aux yeux, et c'était un risque tout. Hein.
Oui, parce que Sinatra fréquente déjà ce premier Rat Pack. Hein. Il apparaît, il est un petit peu là.
Il le fréquente. Et même d'ailleurs, le premier Rat Pack se donne la plaisanterie de faire une sorte de comité exécutif, etc. Et Sinatra en est le président. Mm-hmm. Bogart étant le porte-parole.
Oui. La figure de proue, en tous les cas.
C'est la figure de proue.
Exactement. Donc ça, c'est le premier Rat Pack à années 50. D'où vient ce nom? On sait Rat Pack, ça veut dire club des rats, on va dire. Hein. C'est une provocation, c'est une galéjade. Mais ça vient d'où? Il y a plusieurs théories, je crois.
Alors voilà, il y a plusieurs théories, mais je crois que celle qui est la plus crédible, c'est celle que raconte Lorraine Bacall, justement. Elle les a vus débarquer au petit matin d'une virée à Las Vegas, qui devait être frénétique, comme on peut l'imaginer, et avec la mine complètement déconfite. Elle a dit, vous avez l'air d'une sacrée bande de rats.
Voilà.
Et donc, l'expression a fait florès.
Rat Pack.
Et voilà, ils l'ont conservé, etc.
Et c'est resté. Alors, le Rat Pack de Sinatra, j'ai envie de dire, c'est plus les années 60. Et alors, ce qui est assez cocasse, c'est que il n'aimait pas du tout ce nom, Sinatra. Il ne l'employait jamais. Ce sont les journalistes qui ont continué à appeler ce groupe le Rat Pack. Mais lui, il n'aimait pas ça du tout. Pour quelle raison?
Absolument. Il n'aimait pas pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'expression ne lui plaisait pas trop. La deuxième chose, c'est que le Rat Pack était très lié à la personne de Bogart. Et il ne voulait pas apparaître comme l'héritier de Bogart. Déjà, il avait une aventure avec Lorraine Bacall pendant un an. Ça suffisait. Il voulait pas être l'héritier. Ce type s'est fait lui-même. Il voulait que ça sache.
Pas question de copier.
Pas question de devoir quelque chose à qui que ce soit. Donc, c'est la deuxième raison. Après, ils ont voulu appeler ça le sommet. Parce que c'était l'époque de la détente, Est-Ouest, etc. Il y avait des sommets entre chefs d'État. Ils voulaient faire un sommet, ce qu'ils appelaient le sommet du cool. Mm-hmm. Donc, eux préféraient appeler
la
le sommet.
La classe, quand même, non? Le sommet du cool.
Le sommet du cool. C'est ça veut dire quelque chose. Mmh. Et finalement, bon, c'est resté dans l'histoire sur le nom de Rat Pack. Il l'a accepté tant bien que mal. Quoi.
Et puis, il faut comprendre que ce Rat Pack s'est donc organisé autour de Sinatra. Et alors, il refuse ce nom, mais il accepte la structure. J'entends par là que pour bien comprendre ce qu'est le Rat Pack de Sinatra, il faut comprendre la personnalité de Sinatra, qui est un boss. C'est le parrain. Ça, il l'accepte complètement. C'est organisé autour du pouvoir de Sinatra.
Absolument. Autant le premier Rat Pack était quand même très, 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 très libéral et très éclaté. En revanche, le second est très structuré, très hiérarchisé. C'est le patron. Chairman of the board, comme l'expression le dit. Mais c'est vrai, un patron incontesté que personne ne songe à inquiéter d'une certaine façon. Et c'est lui qui dirige les opérations et personne ne lui résiste.
Et à propos, monsieur Eddy, pourquoi Sinatra a-t-il boxé John Wayne?
Ah ben voilà, c'est une bonne question. Pourquoi? Ben parce que quand il était jeune, Sinatra était très libéral. John Wayne, lui, jeune, était réac, vieux aussi d'ailleurs. Et dans les années donc 50, il y avait le maccartisme, c'est ce que c'était, la chasse aux sorcières, on voulait pas de communistes aux États-Unis, gens de gauche, c'était mal vu, et il y avait donc la liste noire. Sur cette liste noire, il y avait plein de scénaristes, dont un dont s'est occupé Frank Sinatra, que Frank Sinatra a défendu, ce qui n'a pas plu au Duke. Mais rassurez-vous, depuis, Sinatra a retourné sa veste.
Et qui a gagné le match entre Sinatra et John Wayne?
Oh ben ça, c'est suivant les légendes. Il y a celle de Wayne, il y a celle de Sinatra, mais de toute manière, le combat était inégal. Un poids plume contre un poids lourd. Ça peut pas gagner, ça. Bon.
Alors, vous racontez dans votre excellente biographie de Frank Sinatra, George Ayache, La Voix de l'Amérique, Frank Sinatra, qu'il y a un événement à la fin des années 50 qui peut être perçu comme un acte, on va dire, inconscient et fondateur du Rat Pack de Sinatra. C'est qu'il s'aperçoit qu'un acteur avec lequel il s'est fâché, qui est Peter Lawford, peut éventuellement devenir le beau-frère du futur président des États-Unis. Peter Lawford s'est marié avec Patricia, qui est la sœur donc de JFK, et il se dit, Sinatra, je suis brouillé avec ce mec, mais tellement fasciné par le pouvoir, Sinatra se dit, ce serait quand même bien que je me rapproche de lui. Et c'est vrai que c'est un acte un peu fondateur, finalement, puisque c'est de là que va découler l'organisation structurée ensuite du Rat Pack.
Vous avez tout à fait raison. C'est autour de cette idée que se fonde le Rat Pack, parce qu'il y a un soubassement politique là, très, très évident, une opportunité politique. Et il le sent, comme vous le dites très bien, il le sent dès le départ. Hein. Il connaissait Lawford de longue date, il s'était disputé avec lui. Dès qu'il s'aperçoit que Kennedy peut être dans la course pour la présidence, c'est-à-dire dès les années 56-57, là, à ce moment-là, il raccroche au wagon de Lawford et il fait comme si de rien n'était. Réconciliation, etc. Et à partir de là, il raccroche au train Kennedy et Kennedy le fait très volontiers. Parce que s'il est vrai que Sinatra est fasciné par le pouvoir, Kennedy est fasciné par le showbiz. Mmh. Ça, c'est la conjonction se fait sur ces bases-là entre les deux.
Et c'est vrai que c'est un duo qui marche très très bien finalement. Showbiz, politique, politique, showbiz entre Kennedy et Sinatra, ça fonctionne super bien.
Ils partagent les mêmes idées, ils sont démocrates tous les deux et même Sinatra est démocrate avant que Kennedy d'ailleurs.
Bien sûr.
Ils partagent les mêmes femmes, ils partagent le même même style de vie, les mêmes valeurs de vie, donc tout les rapprochait.
On va revenir évidemment à ce duo Kennedy-Sinatra, mais avant, concomitant, on va dire, à cette affaire Lawford, à la fin des années 50, vous l'avez déjà évoqué, Georges Ayache, c'est aussi un peu la détente. On organise des sommets, comme vous dites. Et Sinatra avait dit, il faudrait justement que les artistes donnent l'exemple. Donc organisons des sommets, un peu comme une plaisanterie. Mais arrive dans cette histoire un personnage important, qui est Jack Entretter, qui dit, ok, moi je te prends au sérieux, on va organiser des sommets, mais donc des spectacles. Et là, on réunit Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford, Joey Bishop. Et c'est finalement ce monsieur très chaleureux et très élégant, Jack Entretter, qui va créer, fonder le Rat Pack Sinatra.
Alors, c'est l'élément inconnu de l'histoire, hein, parce qu'effectivement, il est dans l'ombre, c'est l'organisateur en quelque sorte. Il avait déjà été impliqué dans le premier Rat Pack, d'ailleurs, parce qu'il était... Alors, lui, il a une vie passionnante. Hein, petit mafioso au départ, il fait ses classes dans tous les nightclubs de classe, Copacabana, New York, et puis après il va sur la côte ouest organiser la vie mondaine dans les palaces qui viennent de pulluler à Las Vegas. Et donc il crée littéralement au début des années 50 un palace qui s'appelle le Sands, et c'est là que ça va être le théâtre des exploits du Rat Pack. Et comme vous dites, il dit chiche, allez, on y va, on va essayer de faire quelque chose. Lui a vu tout de suite l'intérêt en termes de showbiz, de business pur qu'il y avait dans cette opération, alors que les autres ils vivaient simplement, c'était pour plaisanter.
Et au départ, ça devait durer quelques jours seulement.
C'est ça.
C'était prévu pour une semaine à l'affiche.
C'était prévu pour une semaine, mais il y a eu un tel engouement. C'était un phénomène vraiment national, hein, et qui a dépassé toutes les espérances.
Comment est-ce qu'on explique ce succès phénoménal, Georges Ayache ? Parce qu'effectivement, au départ, ils sont là pour durer quelques jours. C'est une bande de potes qui ont envie de s'amuser. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des sketchs, de l'improvisation, de la chanson. C'est quoi ? C'est nouveau ? Ça fédère tout le monde ? Parce que ça va devenir effectivement un phénomène ultra populaire. Aujourd'hui encore sur le net, c'est des millions de vues, les vidéos du Rat Pack.
Hein. Absolument. C'est inédit comme phénomène. Et d'abord, c'était centré autour de personnalités hors du commun. Ils étaient cinq, principalement. Il y avait Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford, et un dernier qui est moins connu, de nous en tout cas, mais qui l'était dans la télé à l'époque, c'était Joe Bishop. Le moins intéressant de la bande, artistiquement parlant, c'était Lawford. Il savait rien faire, il savait pas ni chanter, ni danser. Bon.
Précisons, Georges Ayache, qu'on connaît tous Peter Lawford, puisque c'est le type qui fait venir Marilyn Monroe sur la scène au Madison Square Garden pour Happy Birthday, Mr. President. Ce type-là, c'est Peter Lawford.
Voilà. C'est Peter Lawford.
Donc tout le monde sait qui c'est, finalement.
Qui était finalement un artiste qui tenait la route. Hein. Il était depuis les années 40. Mm-hmm. C'était un Britannique qui était venu en Amérique. Il avait fait carrière, c'était le beau gosse. Il a eu des aventures avec des personnes... Anna Turner, Ava Gardner aussi au départ, non, il était très connu. Mais c'était un acteur de seconde zone, quoi. Donc il est retombé dans l'anonymat, et c'est Sinatra qui le tire de l'anonymat, mais sur scène, il est un peu gauche, il sait rien faire.
Mais c'est vrai que les autres, en revanche, sont tous des cadors dans leur genre.
Bishop ne savait pas chanter ni danser, il n'y tenait pas parce qu'il avait toujours le visage triste, etc. Mais il racontait des histoires.
Et très bien.
Des histoires du genre Ashkenaz, fait rire en pleurant. Bon, c'est comme Woody Allen, après... Mais les trois autres, ce sont les trois majeurs, alors là c'est autre chose. On a Sammy Davis qui vraiment est un phénomène de la scène américaine.
Et noir américain.
Un noir américain, danseur exceptionnel, un type qui peut imiter également tout le monde. Il a commencé par faire des imitations. Et avant que Sinatra lui dise tu devrais utiliser ta propre voix qui est remarquable, et elle l'était en effet. Et donc c'est une pile atomique ce type-là sur scène, etc. Dean Martin, dont la voix aussi est inoubliable, hein, et effectivement on pense aussi qu'il s'est quelque peu gâché par un dilettantisme, parce que si vraiment il avait mis le paquet pour travailler, il aurait pu devenir un phénomène. Etc. Et puis Sinatra, bon, qui était le patron. Donc c'est autour de ce groupe-là que ça s'est formé. Après, effectivement, le genre qu'ils ont pris, c'est un genre complètement composite. C'est-à-dire des sketchs de très mauvais goût qui tournaient autour du sexe.
Un peu vulgaire d'ailleurs. Hein.
Très vulgaire. Mmh. L'alcool avec le bar roulant qui arrivait sur scène.
Oui, il y avait un bar roulant qu'on amenait, qui était devenu presque mythique.
Hein. Alors même si à la place du Jack Daniels, la boisson, il y avait souvent du jus de pomme.
Oui.
Mais cela dit, ils étaient très, très, très pointilleux sur le fait de ne pas que ça ne se sache pas.
I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in.
Les gens voyaient d'abord quelque chose de flamboyant. Ces gens étaient quand même remarquables, artistiquement parlant. Ils dégageaient également sur le plan humain la beauté, l'aisance. Et puis, l'époque s'y prêtait. Après toutes ces époques de dureté, l'Amérique sortait quand même de la crise des années 30, de la guerre qui était très meurtrière, du McCarthyisme.
De l'après-guerre compliquée aussi.
De l'après-guerre compliquée. Et là, pour une fois, il y avait une sorte d'éclaircie, et une sorte d'embellie.
De joie.
Et là,
et de plaisir.
Pour eux, et d'ailleurs, ils en ont encore eux-mêmes la nostalgie. Parce que c'était une époque privilégiée, si vous voulez. Elle n'a pas duré longtemps, mais c'était une sorte de petit âge d'or en soi.
Alors, par ailleurs, on a souvent coutume d'entendre, Georges Hayash, que ce Rat Pack version Sinatra, ça a été une sorte de cabinet noir de l'élection de Kennedy. Pour quelle raison? Puisqu'on dit, voilà, Sinatra a été le vecteur par Lo Ford, beau-frère d'eux, et son ami Sam Giancana, qui était donc le big boss de la mafia américaine, italo-américaine, on dit, voilà, Sinatra a fait l'intermédiaire, il a permis la rencontre, entre guillemets, l'arrangement de certaines élections, notamment à travers les syndicats que la mafia tenait, et on dit, voilà, ce Rat Pack-là, ok, c'était le plaisir, le spectacle, mais c'est le cabinet noir de l'élection de JFK. C'est un peu excessif, qu'est-ce qu'on en dit? Est-ce que c'est une réalité? On en est où de tout ça?
Non, je ne crois pas que ça soit excessif, hein, malgré tout, parce que d'ailleurs les journalistes eux-mêmes avaient surnommé le Jack Pack.
Oui, le Jack Pack.
Donc, c'était très significatif.
Jack non, étant non. Le vrai nom de John Fitzgerald
oui,
Kennedy.
Le petit nom de John, c'est Jack.
C'est Jack.
C'est pas Johnny.
Voilà, hein, c'est ça, exactement.
C'est pas comme chez nous.
Voilà.
Cela dit, c'est vrai que Rat Pack a fait le lien entre Kennedy et la mafia. La mafia ayant fait gagner Kennedy l'élection. Moi
j'ai la conviction,
mathématiquement, Kennedy n'avait aucune chance de gagner l'élection sans la mafia. Et ils ont fait tomber deux états clés, qui étaient le Texas, d'une part, et d'autre part, surtout l'Illinois, avec Chicago. Et Chicago était vraiment le moment du basculement qui a fait tomber Nixon, alors que Nixon aurait dû gagner sa 50 fois. Alors, c'est un lien qui était voulu par les Kennedy. C'est pas Sinatra qui a sollicité les Kennedy en disant ouais, « je peux vous aider », etc. Pas du tout. C'est le père Kennedy, qui était le maître d'œuvre de toute l'opération,
Joseph.
Joe Kennedy, qui était lui-même impliqué jusqu'au cou dans les opérations louches, la mafia, etc.
Bah, il les connaissait bien. Quoi.
Il les connaissait très bien, trop bien d'ailleurs, puisqu'il leur a fait des entourloupes. Et
bien donc, sûr.
Bon. Et ils n'étaient pas très chauds pour aider les Kennedy au départ, en pensant au père. Et puis, ils ont pensé aussi que si Jack arrivait à être président, peut-être arriverait-il à arranger les affaires en justice, passerait-il l'éponge, etc. Retour d'ascenseur. C'est ce qu'ils ont cru.
Et puis après, ça s'est mal passé pour eux ensuite.
Après, ils ont
pas pour tout le monde, du coup, finalement.
Ça s'est mal passé pour tout le monde parce que Kennedy a complètement coupé les ponts et a mené au contraire une lutte acharnée
à travers son frère, notamment. Alors bon, il y a la mafia, Sam Giancana, bon, mais il y a aussi la lutte contre la ségrégation. Le Rat Pack, c'est ça aussi.
Ah oui.
Il faut toujours ne jamais oublier ça, en tous les cas. Sinatra s'est beaucoup battu pour pouvoir jouer dans des salles qui embauchaient des Noirs américains. Et surtout, il s'est aussi battu pour que Sammy Davis Jr., l'Afro-américain du groupe, puisse dormir dans les mêmes hôtels que les autres membres du Rat Pack. Ça paraît rien comme ça, mais c'est énorme parce que à l'époque, il y a un esprit voilà, de ségrégation, presque évident pour les Américains. Mais cette lutte de Sinatra est très importante et ça a beaucoup changé, notamment... Les hôtels de Vegas ont beaucoup changé suite à l'aventure du Rat Pack.
Absolument. Ça, c'est la face brillante, je pense, de Sinatra, parce qu'on est toujours prompt à montrer la face obscure. Mais là, c'est une constante chez lui. C'est pas du tout un effet d'opportunité. C'était un militant du Parti démocrate depuis le départ, hein, sa mère étant une pétroleuse même du Parti démocrate dans le New Jersey. Mais lui était reçu deux fois par Roosevelt, hein, Sinatra. Il était tout jeune, etc. Il s'est impliqué. Après, en 1945, il a eu un Oscar pour un film qui s'appelait The House. C'est une sorte de documentaire contre le racisme et l'antisémitisme. Et à l'époque, ça n'était pas aussi évident de partir bille en tête, si j'ose dire, contre ce genre de choses. Il y a une sorte de politiquement correct qui faisait qu'un artiste pouvait très bien jouer sa carrière en s'impliquant trop là-dessus. Sinatra l'a fait quand même. Et comme vous dites, il s'est battu auprès des Noirs pour qu'ils aient accès à des hôtels décents, alors qu'ils étaient toujours à Las Vegas, notamment relégués en périphérie, dans des hôtels sordides, etc. Ils avaient le droit de jouer dans les hôtels, mais pas d'y dormir. Donc, ça a été une lutte, et comme vous dites, on imagine mal maintenant l'importance que ce combat pouvait avoir. D'ailleurs, les artistes, les jazzmen noirs, etc., les plus connus, ont une vénération de Sinatra, de Duke Ellington à Ella Fitzgerald. Ils ont été les inconditionnels de Sinatra, quoi qu'on ait pu dire à son sujet par la suite.
Alors, ce Rat Pack Sinatra, l'âge d'or, ce sont les années 60. Ensuite, chacun reprend un peu sa route. Néanmoins, il y a une tentative de renaissance en 1987. Pas pour n'importe quelle raison, c'est qu'à l'époque, Dean Martin vient de perdre son fils dans un accident d'avion. Il est noyé dans le chagrin et Sinatra, toujours par amitié et par beauté, décide de relancer la troupe sur la route pour relancer la vie de Dean Martin. Mais C'est un flop. Hein.
Ouais, c'est un flop parce que Dean Martin est trop atteint, si vous voulez. Il est complètement au 36e dessous sur le plan psychologique. Il tient quelques concerts, avec beaucoup de désinvolture d'ailleurs, parce qu'il se fiche de tout à partir de là. C'est un homme fini, brisé, etc. Et Sinatra le comprend. Au début, il s'énerve contre lui, et puis après, il dit, bon, c'était mission impossible, on peut pas. Donc, comme il y avait quand même du public, ils ont prolongé l'affaire en faisant venir Liza Minnelli, en faisant venir d'autres artistes en remplacement.
Des guest stars.
Voilà, des guest stars, mais ça n'avait pas l'impact, c'était vraiment une triste fin pour le Rat Pack, c'était une caricature si vous voulez.
Le crooner nous a quittés. Dean Martin s'est éteint à l'âge de 78 ans, victime d'une insuffisance respiratoire. L'inoubliable interprète de Rio Bravo avait débuté sa carrière en jouant les bouffons, vous en souvenez sans doute, avec Jerry Lewis. Par la suite, ce fils d'immigré italien allait incarner la réussite même du rêve américain. Il fut aussi, vous le savez, l'ami inséparable d'un autre grand crooner, Frank Sinatra.
And now the end is near, and so I face the final curtain.
1990, Sammy Davis Jr. meurt. 95, c'est au tour de Dean Martin, donc Sinatra sera le dernier. Néanmoins, la mort de ces deux-là, c'est deux coups de poignard, hein, George Hayashake. Ah, il s'en remettra jamais, Sinatra.
Non, il s'en remettra pas. Sammy Davis, c'est Sinatra qu'il avait recueilli quand il avait perdu son œil accidentellement. Il a recueilli chez lui, chouchouté. Il lui a après trouvé de nouveaux engagements parce que il n'était pas sûr de pouvoir tenir la scène comme avant avec un œil en moins, surtout pour un danseur. C'était quand même très très périlleux. Eh bien, il lui a donné quand même ses coups de pouce qui ont refait sa carrière. Donc Sammy Davis lui en était aussi hyper reconnaissant.
Sinatra meurt le 14 mai 98 et là encore vous racontez dans cette très bonne biographie le choc pour l'Amérique. C'est pas anodin non plus, c'est-à-dire que c'est une prise de conscience de la disparition de The Voice et c'est un véritable traumatisme pour les Américains.
C'est leur vie qui disparaît. Tout le monde a été bercé par des airs de Sinatra depuis les années 30 jusqu'aux années 90. Donc c'est un homme qui était toujours là, qui a vu 11 présidents successifs, qui était toujours sur le devant de la scène, qui a coulé, qui s'est refait. Donc tous les mythes américains se retrouvent cristallisés dans sa personnalité. Le comeback, la réussite, le talent, la classe, le brillant, la face sombre aussi. Donc vraiment, il concentrait tous les ingrédients qu'aiment les Américains.
Où est-ce qu'il est enterré, Sinatra ?
Je crois qu'il est enterré à Hollywood. Il était né donc à côté de New York, à Hoboken, dans les faubourgs, hein, ouvrier dur. C'était un port avec les syndicats. C'est là où a été tourné le film d'ailleurs de Lia Kazan sur les quais, avec Brando. Ce qui avait horripilé Sinatra, puisqu'il convoitait le rôle de Brando. Et, étant à Hoboken, il ne pouvait pas concevoir. Donc il a voulu une haine tenace à Brando jusqu'à la fin de sa vie, puisque Brando a eu le mauvais goût aussi de jouer dans Le Parrain, qui ridiculise Sinatra d'une certaine façon. Donc il avait tout pour le détester.
Et Sinatra avait surnommé Brando Monsieur Bredouillage, estimant qu'il ne savait pas parler en fait.
Hein. Monsieur Bredouillage, l'autre en avait autant sur sa vie, c'est le surnommé le chauve. Parce qu'effectivement, il avait un problème de calvitie.
Georges Hayash, je vous remercie beaucoup. Merci. Et j'invite tous nos auditeurs à se précipiter sur votre excellente biographie de Frank Sinatra aux éditions Perrin. Frank Sinatra, la voix de l'Amérique. Merci beaucoup Georges Hayash.
Merci à vous.
À bientôt.
Yes, it was my way.
Et comme d'habitude, chaque fois qu'on entend Sinatra, c'est l'Amérique qu'on voit. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Alors merci à notre réal Marco Mutel, assisté aujourd'hui de Patrick Henry.
Et Colin, faudrait pas oublier Joy Raffin.
Joy Raffin, la voix narrative de cette émission. Merci Joy, à la semaine prochaine.
Bye folks, and see you next week.